7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Elles sont nounous ou femmes de ménage, bas salaire, perspective d'évolution réduite, déclassement social en France et ailleurs. Ces femmes de l'ombre vivent une précarité bien particulière, sans bien souvent d'autres choix. Les entendre, c'est aussi comprendre la société dans laquelle nous vivons. Alors quelle vie quotidienne pour ces femmes, souvent d'origine immigrée ou issues du milieu rural sur le continent africain? Quel avenir imaginent-elles et que raconte de nous ce nouveau prolétariat féminin en plein essor depuis les années 90. Première de corvée, et non pas de cordée, c'est le titre du livre que vous publiez sur la question, Timothée de Roglaudre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant et vous avez interrogé des femmes, nounous ou femmes de ménage, pour mieux comprendre leur parcours de vie. Bonjour Caroline Ibos.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, chercheur au laboratoire des études de genre et sexualité du CNRS et vous avez publié Qui gardera nos enfants chez Flammarion. Nous serons également en ligne un peu plus tard dans l'émission avec Sylvie Lemercier, employée de la société de services à domicile O2, et nous joindrons aussi Danielle Maréchal, ancienne assistante maternelle et militante syndicale au sein du syndicat CFDT. Alors les voisines, si vous-même vous travaillez ou avez déjà travaillé comme employée de maison, n'hésitez pas à nous appeler, votre témoignage peut être anonyme bien sûr, ou bien les voisins, les voisines, si chez vous, vous employez une personne pour s'occuper de votre maison et de vos enfants quand vous êtes au travail, vous pouvez aussi nous appeler dès maintenant au 33 1 84 22 71 71, et comme toujours nous vous attendons aussi sur les réseaux sociaux WhatsApp, Facebook et Twitter. Je vous lis quelques messages de voisins qui nous parviennent sur Facebook et qui s'alarment pour beaucoup de cette situation des femmes travailleuses domestiques. Adama nous écrit « Chez moi, au Mali, il y a une exploitation de la personne par la personne. Les dames de ménage, ou les bonnes comme on les appelle, travaillent de 6h à 21h pour en moyenne 15 000 francs CFA par mois, soit 23 euros environ. Souvent, elles n'ont pas accès aux soins médicaux, elles sont souvent maltraitées et battues, certaines sont abusées ou violées par le maître de maison et quand elles tombent enceintes, elles sont renvoyés et rejetés par leur famille. Il faut que tout cela change. » Je vous lis également le message de Baby qui nous écrit de Kinshasa. « Ici, les travailleuses domestiques sont souvent maltraitées. La plupart n'ont pas fait d'études. Elles viennent souvent de l'intérieur du pays pour un salaire de misère. » Et puis Elisère est à Goma en RDC également. « Chez nous, les domestiques travaillent sans contrat écrit. Elles ne reçoivent pas leur salaire régulièrement. D'autres n'ont aucun moment de repos. Certains considèrent les domestiques comme des esclaves. » L'État doit prévoir une législation sur la protection des droits des domestiques chez nous.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Timothée de Roglaudre, vous vous êtes intéressé à ces femmes, femmes de ménage et nounous, inspirées par celle qui a été votre nounou, Tata de son surnom, Swad de son prénom. Et en fait, quand elle est partie à la retraite, vous avez compris que vous ne saviez rien de son histoire. Alors vous êtes mis à l'interroger. Qu'est-ce qui a pu vous marquer dans cette histoire-là ?
Alors, ce qui m'a marqué, c'est ce qui m'a marqué chez toutes les autres travailleuses domestiques que j'ai rencontrées, c'est-à-dire l'absence de choix dans le parcours de vie. C'est-à-dire que se retrouver travailleuse domestique, femme de ménage, garde d'enfants, pour la totalité d'entre elles, c'était quelque chose de subi. C'était un choix par défaut en arrivant en France, avec l'obligation de trouver un boulot facile, entre guillemets, assez rapidement pour pouvoir faire les papiers quand il n'y en a pas, pour pouvoir trouver un logement, éventuellement envoyer de l'argent aux enfants quand ils sont restés dans le pays d'origine. Donc Swad, elle me dit beaucoup, je regrette, parce qu'elle a vu tous ses frères et sœurs qui avaient trouvé des emplois plus valorisés, infirmière en maison de retraite, même journaliste. Et elle dit, moi je me suis retrouvée dans le ménage et les enfants, comme si c'était quelque chose de... comme si c'était un accident de parcours.
Et vous l'écrivez, vous êtes enfant de bourgeois. En termes de revenus, vos parents se classent parmi les 1% les plus riches de France. C'est de cette position aussi que vous voulez enquêter. Et vous êtes allé donner la parole à d'autres personnes que Swad.
Ouais, en fait, je suis parti du témoignage de ma propre nounou, et ensuite je suis allé voir un peu dans l'entourage de ma famille. Donc il y a par exemple il y a la nounou que j'ai eue de ma naissance à mes 1 an et demi, qui s'appelle Malini, qui vient de l'île Maurice. Il y a aussi des nounous de mes amis. Et à partir de ces témoignages, j'ai voulu aussi contextualiser en essayant de comprendre quels étaient les enjeux sociaux qui les touchaient, quels étaient les problèmes, les problématiques de santé. Donc voilà, donc c'est à la fois des témoignages, parce que c'est ma première volonté, c'est de les mettre en visibilité, de les mettre en lumière, mais c'est aussi une volonté de comprendre ce qu'elles vivent et de recontextualiser un peu leur parcours.
Et on va revenir sur tous ces parcours-là. Caroline Nibos, la catégorie travailleuse domestique est assez vaste. Qu'est-ce qu'on entend en fait par cette catégorie-là ?
Oui, elle est très vaste, elle est même indéfinie. C'est une catégorie qui a ressurgi depuis il y a très peu de temps, et notamment sur le plan international. Quand j'ai publié le livre dont vous avez parlé en 2012, donc c'est pas très ancien, je parlais de travailleuses domestiques, et les personnes, y compris les journalistes, me disaient « mais il n'y a pas de domestique en France ». Donc il y a juste 7 ans. Et maintenant, c'est une catégorie qui tente à s'imposer. Alors, c'est une catégorie donc il faut construire, et on peut la construire différemment. Il n'y a pas une seule définition, mais c'est important quand on travaille là-dessus de voir comment on la définit. Moi, je la définis au moins par disons, 3 critères. D'abord, un critère de subalternité du travail, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, un professeur de mathématiques qui vient donner des cours particuliers à la maison n'est pas un travailleur domestique. Un critère lié à la domesticité, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Et un troisième critère qui est aussi de satisfaire des besoins qui sont des besoins qui s'expriment en général dans la sphère privée.
Donc, voilà. Par exemple, garder les enfants.
Garder les enfants, ça peut être aussi. Alors, c'est là qu'il y a un flou. Ça peut être, par exemple, on peut se demander si les livreurs de Deliveroo, ce ne sont pas des travailleurs domestiques.
Les livreurs à domicile.
Voilà, les livreurs à domicile. Je ne veux pas faire de pub pour Deliveroo, je n'aurais pas dû les citer. Même chose pour des compagnies de chauffeurs privés, dont je ne citerai pas le nom.
C'est la question de l'espace privé, en fait.
C'est la question de l'espace privé et de la satisfaction de besoins de consommation qui pourraient être satisfaits autrement. Mais par exemple, je ne compte pas dans les travailleuses domestiques les personnes qui viennent s'occuper des personnes âgées à domicile, parce que là, c'est tout à fait différent. Il ne s'agit pas de satisfaire des besoins qui pourraient être pris facilement en charge autrement.
Alors, voilà. On parle de femmes travailleuses domestiques, car ce sont surtout des femmes qui occupent ces postes-là, en majorité.
Oui, alors les chiffres varient, mais par exemple, l'OIT parle à l'échelle internationale, donc l'Organisation internationale du travail parle de 80% à l'échelle mondiale. Et en France, on est plutôt entre 90% et 100%, donc c'est la quasi-totalité des employés de ce secteur.
Donc c'est une part très importante.
Mais historiquement, c'est pas... Enfin, disons que ça aussi, la féminisation s'inscrit dans des phénomènes historiques. Et la féminisation des domesticités pour la France et pour l'Angleterre, c'est des choses très bien étudiées. Ça se passe au 19e siècle, au moment de la déspécification des domesticités. C'est-à-dire au moment où les domestiques deviennent occupent des fonctions génériques, la petite bonne qui fait tout, la bonne à tout faire. C'est-à-dire quand il y a une dévaluation du travail et des revenus, ça se féminise. Mais on voit ça aussi bien, par exemple, en Chine ou en Angleterre, quand il y a de nombreuses domesticités, les positions de pouvoir à l'intérieur des domesticités, la figure du butler, c'est un homme. Donc le chef des domestiques, c'est un homme.
Le majordome, en fait,
oui,
on peut dire.
Oui, c'est ça, le butler, c'est le majordome.
Je vous propose d'écouter tout de suite le message WhatsApp d'un voisin qui vit à Tsévié, au Togo.
Je m'appelle Jérôme, je vous parle du Togo. Je voudrais juste donner le témoignage d'une de mes sœurs. Elle a travaillé dans un ménage. Alors le monsieur était directeur et la dame du monsieur était infirmière. Donc ma petite sœur était allée dans ce ménage et elle était payée, je crois, à
à 15 000 francs, 15 000, 20 000 francs. Mais lorsqu'elle est arrivée là, et il s'est fait que le mari a constaté que la petite sœur faisait mieux la cuisine que sa femme. Et le mari a commencé par faire des yeux doux à la sœur. Donc elle était obligée de quitter pour ça, parce que la dame a constaté ça et a commencé par mettre de pression. Et donc elle était obligée donc de quitter.
Voilà, message WhatsApp d'un voisin, Jérôme, qui raconte que sa sœur était payée entre 23 et 30 euros par mois. Et on l'entend, hein, Caroline Ibos, du fait de cette position, on peut très vite être à la merci, en fait, de son employeur.
Oui, j'aime bien l'expression de ce monsieur qui dit le patron faisait les yeux doux. On se demande ce que veut dire dans ce cas faire les yeux doux. Disons que l'une des figures assez classiques de la position des domestiques, c'est le viol. C'est le viol par les patrons. Voilà, donc il y a une exploitation sexuelle des domestiques. Là, c'est vraiment quelque chose de transhistorique et de on n'a bien sûr pas de chiffres, mais ça revient dans tous les témoignages.
Timothée de Roglodre, vous écrivez dans votre livre « Leurs conditions de vie, leurs droits sociaux et même leur santé, tout est impacté par leur travail ». Il y a un vrai lien, en fait. Elles sont aliénées presque à ce travail-là.
Oui, en fait, elles n'ont pas forcément la possibilité, l'espace dans leur vie d'avoir des loisirs, d'avoir d'autres aspirations, même si la plupart ont eu des rêves. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont parlé du métier de leur rêve, que ce soit médecin, avocate, assistante sociale. Et en fait, elles se retrouvent prises effectivement dans ces métiers où en moyenne, les travailleuses domestiques sont sous le seuil de pauvreté. Où l'isolement, donc le fait de travailler dans le plus privé des espaces qui est le domicile, rend la mobilisation collective compliquée. Et également, vous parliez de la santé, là c'est vraiment les femmes de ménage en particulier multiplient les problèmes de santé. Donc il y a des choses assez évidentes comme les problèmes de dos, mais il y a aussi la toxicité des produits de nettoyage utilisés qui peuvent être cancérigènes, voire provoquer du diabète ou des insuffisances respiratoires. Ensuite, il y a des problèmes un peu moins évidents comme le syndrome du canal carpien, qui est surnommé la maladie de la femme de ménage et qui est une forme de trouble musculo-squelettique, c'est-à-dire que ça touche les professions qui mobilisent beaucoup les articulations. Et ce syndrome touche trois fois plus les femmes que les hommes, et voilà, en particulier les femmes de ménage. Donc il y a un ensemble de problèmes de problématiques de santé, alors que dans le même temps, la médecine du travail est quasiment inexistante.
Vous faites aussi le portrait de Mariam, nounou d'une de vos amies, qui est née à Marseille, qui a été mariée de force en Algérie et qui est revenue en France avec un fils à charge, et qui vous dit « quand on n'a pas de diplôme, c'est la seule chose à faire. En fait, tous mes rêves ont échoué ».
Oui, c'est ce que je vous disais sur le fait que ces femmes avaient des rêves, effectivement, des aspirations dans la vie, mais que la position sociale dans laquelle elles se sont retrouvées, donc femmes migrantes ou femmes racisées, on pourrait dire, fait que sans accompagnement, en fait, sans accompagnement public vers une meilleure insertion, sans action des pouvoirs publics pour une meilleure intégration de ces femmes migrantes, la seule option qui s'est présentée à elle, c'était le travail domestique.
Il n'y a pas d'autre position possible. Les voisins, les voisines, on attend vos témoignages, vos points de vue ou vos questions pour nos invités, si vous en avez, au 33 1 84 22 71 71. Et nous allons tout de suite joindre une autre invitée.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Bonjour Sylvie Lemercier.
Oui, bonjour.
Vous êtes employée, bonjour, de la société de services à domicile O2. Merci beaucoup d'être avec nous. Peut-être que vous pouvez déjà nous dire un petit mot sur votre travail. En quoi ça consiste exactement? Qu'est-ce que vous faites?
Alors moi, au sein de l'entreprise, je fais surtout des prestations de garde d'enfants et je fais également un petit peu de prestations de ménage au passage.
Et depuis combien de temps?
Alors, justement, je voulais préciser. Alors, au départ, j'ai commencé en 2010, mais plus particulièrement avec des CESU, c'est-à-dire en particulier employeur. Et peu de temps après, j'ai intégré donc la société O2, qui est une société prestataire de services.
Et qu'est-ce qui a changé alors entre ces deux statuts-là, le fait de travailler chez des particuliers directement et puis le fait d'être employé par une entreprise ?
Alors, la grande différence, c'est que du coup, quand on se trouve dans une entreprise prestataire de services, les choses sont déjà un petit peu plus cadrées. On a des missions. La différence, c'est que effectivement, en particulier employeur, on a un certain nombre de clients. Et ben, quand un client arrête ses prestations ou quelque chose comme ça, on n'est pas assuré de retrouver dans l'immédiateté un autre. Donc, il y a une perte de salaire qui en découle. Chose que l'on n'a pas quand on est salarié. Donc, parce que là, du coup, en mode prestataire, je suis vraiment salarié de l'entreprise.
Donc, vous avez le même salaire tous les mois ?
Alors, l'entreprise offre la possibilité d'avoir deux modes de rémunération différents, c'est-à-dire soit le lissage, donc qui permet effectivement une rémunération lissée et qui facilite, disons, le quotidien, ou autrement, être payé au réel, c'est-à-dire en fonction du nombre d'heures qui sont effectuées chaque mois.
Aujourd'hui, quelles sont vos conditions de travail ? Si on devait décrire une journée type ou une semaine type, comment on pourrait la décrire ?
Alors, une journée type, c'est donc une succession de prestations, donc soit ménage, repassage, garde d'enfants. Chez nous, il y a aussi des missions auxiliaires de vie. Des prestations qui peuvent être de durée variable, entre 1 heure, 2, 3, 4 heures, 5 heures, voire plus pour de la garde d'enfants, avec du coup une multitude de prestations qui entraînent aussi beaucoup d'intertrajets, d'intermissions et de temps passé sur la route, de temps perdu, qui n'est pas toujours rémunéré de façon conséquente.
Et vous avez beaucoup de temps de déplacement, en fait, entre chaque prestation, c'est ça ?
Ça peut être très variable, très variable. Alors, c'est vrai que nous, donc c'est la grande différence aussi avec le particulier employeur, c'est que nous avons une partie de nos frais qui peuvent être payés. On est indemnisé. Du coup, quand on intègre ce genre de société, il ne faut pas oublier que la seule chose que l'on a en commun avec le particulier employeur, c'est que même si je fais partie d'une société, on se retrouve quand même relativement isolé sur notre poste de travail.
C'est-à-dire
Eh bien, parce qu'on se retrouve seul chez la personne chez qui on exerce la prestation. Mmh. Donc, au niveau des droits, moi, j'ai vite compris quand j'ai intégré la société que si je voulais faire bouger les choses, il était très important de se rassembler, d'intégrer un collectif afin de faire bouger les choses. Et c'est ce que j'ai fait, du coup, puisque j'ai intégré le collectif. Je suis élue CFDT. Et donc, nous sommes relativement actifs. Et ça nous permet de signer, de négocier des accords avec la direction afin d'améliorer un petit peu le quotidien des salariés. Parce qu'il faut dire que dans la convention collective nationale des services à la personne est relativement récente et par conséquent pas très étoffée encore pour le moment. C'est quelque chose qui va évoluer très certainement au fil du temps, mais ça évolue tout doucement. Et donc nous, ce qui nous tient à cœur, c'est effectivement d'améliorer, de signer des accords, d'avoir des remboursements kilométriques un petit peu plus intéressants que ce qu'offre la convention collective, des accords de participation, d'intéressement, des primes, différentes petites choses qui améliorent des accessoires de salaire, on va dire. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans notre quotidien, nous avons beaucoup de... Beaucoup de personnes qui sont en situation plutôt précaire, on va dire, parce que là où je rejoins Timothée, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui arrivent un petit peu là par défaut, suite, on va dire, à un accident de la vie. Ça peut être, soit une perte d'emploi, une séparation. Et donc, on a quand même des salariés qui viennent d'horizons assez, assez divers, on va dire. Nous avons effectivement des salariés qui arrivent là parce qu'ils n'ont effectivement aucune qualification. Mais il ne faut pas oublier que parmi les salariés de l'entreprise, il y a des personnes qui ont un niveau d'études assez conséquent, des études supérieures. Et qui sont arrivés là, pourquoi ? Parce que le service d'aide à domicile est quand même un secteur en pleine expansion.
Mmh. Et c'est votre cas, à vous, Sylvie Lemercier ? Comment vous êtes arrivée à ce métier-là ?
Mmh. C'est tout à fait le cas. Moi, je suis arrivée là il y a une dizaine d'années, suite à une séparation. Et de ce fait-là, je me suis dit, je prends cela en attendant. Et donc, ça fait quand même 10 ans que j'y suis, parce que finalement, j'ai quand même trouvé mes marques. Je me suis investie aussi, c'est peut-être ce côté social qui a pris le dessus. Et je suis relativement active et j'essaie de tout faire pour améliorer avec mes collègues du collectif pour améliorer
votre situation et celle des autres. Merci. Merci beaucoup Sylvie Lemercier. Je rappelle que vous êtes employée de la société de services à domicile O2 et puis également déléguée syndicale. Merci beaucoup pour votre témoignage Caroline Ibos. Je me tourne vers vous. En France, les emplois à domicile représentent près de 5% de la totalité des emplois. Et vous, notamment, vous remettez en cause la vision de personnes, de travailleuses passives, victimes de leur situation. Sans moyens d'action. Et là, c'est un peu le cas de ce qu'on vient d'entendre avec Sylvie Lemercier.
Oui, effectivement, ce que je constate, c'est que même quand il s'agit de personnes qui ont des ressources politiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent être sans papier, des ressources économiques très faibles, eh bien, ce sont aussi des personnes qui mettent à l'œuvre des moyens de résistance. Et par exemple, il y a alors la dame que l'on vient d'entendre est engagée à la CFDT, mais il y a aussi beaucoup de syndicats, je dirais, autonomes qui se créent, par exemple, dans les squares entre femmes sans papier, qui dit ça ne peut plus durer, on est exploité, nos droits ne sont pas respectés, et donc on va créer un syndicat. Et elle dépose des statuts de syndicat. Et là, j'en suis, je fais une recherche là-dessus en ce moment, j'ai trouvé déjà 17 syndicats. Alors ce sont des syndicats qui peuvent être minuscules, parce qu'elles n'ont pas les moyens forcément de les faire prospérer. Mais la volonté de lutte, elle est là.
Et la volonté de se rassembler.
De se rassembler, de défendre leurs droits et d'essayer d'exiger que leurs droits soient défendus. Donc aussi de elle-même faire du droit. Et en ce moment, il y a une jeune femme qui fait une thèse de droit du travail au CNAM et qui est justement une ancienne nounou, entre guillemets, qui est arrivée et qui a pris des cours de droit pour défendre, elle est allée donc au cours du soir de droit, pour défendre ses droits et les droits de ses copines, de ses collègues dans le square. Et maintenant, elle fait une thèse de droit. Donc, il faut, si vous voulez, il y a deux choses assez différentes et l'une ne doit pas faire oublier l'autre. Il y a effectivement le fait que beaucoup de ces personnes sont exploitées et leurs droits ne sont pas reconnus. Ça n'en fait pas pour autant seulement des victimes, ça en fait aussi des combattantes.
Et alors ces femmes permettent à d'autres femmes plus aisées de pouvoir travailler. Je vous propose d'écouter Rose Mirly-Joseph, docteure en études de genre à l'université de Lausanne et en sociologie à l'université Paris 7. Elle est au micro de Charlotte Bien-Aimée dans un épisode d'un podcast à soi diffusé sur Arte Radio.
Les femmes travaillent de plus en plus et du coup se pose la question de la crise du care, qui va s'occuper de nos enfants. Je pense que tout ça pose aussi la question des paradoxes de l'égalité. C'est quoi ? C'est-à-dire que pour accéder à l'égalité professionnelle avec les hommes, les femmes exploitent d'autres femmes, quoi. Et cela montre tout simplement que les classes, toutes les classes, ont aussi des divisions internes, quoi. Les divisions, ce qu'on va appeler les divisions intracatégorielles, c'est-à-dire il y a effectivement la division entre femmes et hommes qui est importante à regarder, mais le féminisme doit aussi regarder les divisions entre les femmes elles-mêmes, qui se fondent alors sur la classe, les rapports de race, les rapports nord-sud, etc.
Alors, on parle de paradoxe de l'égalité. Les femmes travaillent et donc, qui gardera les enfants? Timothée de Roglodre, vous l'écrivez, Swad, donc votre nounou quand vous étiez enfant, appelait votre mère ma patronne et votre père par son prénom, ce qui était significatif.
Oui, en fait, dans la plupart des cas, l'interlocuteur au sein du foyer va être plutôt la femme que l'homme. Et ça dit beaucoup aussi de la persistance de la division genrée de l'espace domestique malgré l'emploi de ces travailleuses. C'est-à-dire que même si, effectivement, comme dit Rosemary Joseph, l'employeuse va se retrouver elle-même dans une position de domination au sens social vis-à-vis de son employé, elle va elle-même rester dans un rôle de gestionnaire de l'espace domestique. Et c'est vous, Caroline Ibos, dans le même podcast qui parliez de sale boulot moral, là où la travailleuse domestique fait le sale boulot domestique. Donc en fait, même l'employeuse n'est pas complètement libérée au sens féministe.
Oui, c'est comme une nouvelle charge, en fait, morale.
Oui, voilà, s'impose. En fait, c'est là vraiment que l'on voit que les rapports, pour reprendre le terme de Timothée, les rapports de domination se croisent et qu'il y a bien sûr un rapport de classe, mais il y a aussi un rapport de genre, puisque ces relations très difficiles entre les deux femmes, la patronne et l'employée, s'inscrit dans un type de domination où les hommes, eux, s'affranchissent de ce sale boulot qui est de gérer à la fois l'espace domestique, les tâches domestiques, mais aussi la charge mentale et éthique qui est d'avoir une employée domestique chez soi et qui n'est pas quelque chose de moralement, éthiquement, très facile pour beaucoup de femmes qui elles-mêmes ne se sont jamais envisagées comme des employeuses à domicile.
Comme des patronnes, voilà, c'est le mot. On parle des travailleuses domestiques dans 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, on va entendre le témoignage d'une nounou arrivée il y a 10 ans en France. Mais d'abord, Orchestra sur RFI. Petite pause musicale, c'est signé The Servant. Here I am, a young man. Come and get me if you can. Up in my room, covered in flames. Meet me at the cinema. You can take me in your car. I'll lie in the back and stare at the planes. There's an orchestra in me, playing endlessly. I even hear. 7 milliards de voisins, femmes de ménage, nounous, quelle vie quotidienne pour ces femmes qui travaillent chez d'autres. Témoignage tout de suite. Liliane a la quarantaine, elle vit en région parisienne. Il y a 10 ans, elle a quitté son pays en Afrique de l'Ouest, elle préfère ne pas le citer, pour s'installer en France. Très rapidement, elle est devenue nounou à domicile. Un travail qu'elle aime beaucoup, mais qui lui a valu quelques déconvenues. Alice Milo l'a rencontrée et je le précise, la voix de Liliane a été modifiée.
Je suis tombée sur une famille vraiment formidable. Mais la deuxième famille s'est trouvée que par rapport au caractère du mari, c'était vraiment infernal à un moment donné. Et tous les matins quand j'arrive, c'est-à-dire la vaisselle des parents le soir, tout empilé là, dans l'évier. Et moi, j'ai besoin du l'évier pour pouvoir cuisiner pour les enfants. Donc, qu'est-ce que je fais ? En tant que bonne Africaine, nous, on est tout en train de frotter partout. Ça, c'est le typique des Africaines. Donc, je me dis, ben, ça ne me coûte rien de les laver. Et puis, je lave. Ça ne fait pas partie de mon boulot. Les enfants, oui. Parce que ça, c'est dans le cadre de mon boulot. Et c'est devenu une habitude. Tous les matins, je reviens trouver la même chose. De temps en temps, je donnais des coups de main quand je vois que la maison est vraiment... J'aspire, je balaie tout par rapport au bien-être des enfants. Parce qu'ils peuvent être malades avec la poussière partout. Je ne peux pas m'asseoir, regarder la poussière avec les enfants jouer là-dedans.
Quelque part, vous vous êtes piégé vous-même, en fait.
Voilà.
En acceptant de le faire une fois, vous avez ouvert la porte à ce que ça devienne une habitude.
Voilà. En fait, le ménage dans la maison, il faut le faire. J'ai dit, mais déjà, le temps que j'ai ne me permet même pas de faire ce que j'ai à faire pour les enfants. Si je dois rajouter ça dessus, je fais comment? Je ne peux pas. Donc, c'est ce qui m'a amené à faire certaines choses dont ils se sont dit, ah, avec elle, on peut vraiment tout avoir. Et le jour où j'ai arrêté de faire, ah là, c'était mort. L'atmosphère était pourrie, maintenant tu as changé. La maison n'est pas rangée, les lits ne sont pas faits. Voilà la machine, vous n'avez même pas vidé la machine, tout la vaisselle encore dans la machine. Tu ne fais plus comme avant, tu n'es plus la même personne. J'ai dit, mais écoutez, c'est vous qui n'avez pas compris qui j'étais dès le départ. Ce n'est pas parce que je suis gentille, je suis serviable, qui veut dire que je dois être, je ne sais pas, le temps d'avant où on dit c'est une esclave. La deuxième année, quand j'ai demandé cette histoire de formation dont j'avais, où tout a déclenché.
Donc, alors que vous étiez en activité, vous avez annoncé à vos employeurs que vous souhaitiez vous former. Par exemple, avoir le brevet de secourisme.
Voilà. Et quand c'est comme ça, l'État donne des subventions.
Donc c'est l'employeur qui touche les indemnités et ensuite il vous les reverse.
Voilà. Mais quand j'ai réclamé, il m'a dit apporte les preuves. Ah là, il a piqué une crise. Il est rentré dans tous ses états. Vous nous rabattez les oreilles tout le temps. Il faut donner ci, il faut donner ça. C'est toujours toi qui réclames toujours quelque chose. J'ai dit non, je ne réclame rien. Et c'est ainsi que je suis venue voir la dame à la CGT et j'ai expliqué mon cas.
Donc un syndicat national.
Voilà, le syndicat national des travailleurs. Et c'est ainsi que eux, ils ont appelé directement.
C'est la CGT qui a contacté l'employeur.
Oui, oui. En espace de combien, peut-être 6 jours, tout est rentré dans l'ordre, quoi. Donc du coup, je me dis, mais attends. Donc, il a fallu que ça se passe comme ça pour qu'on prête l'attention à ce que j'ai dit, en fait. Et depuis ce jour, dans la relation du quotidien, il n'y a plus de bonjour. On ne demande plus les enfants. La journée, ça s'est bien passé. Je suis punie d'avoir pris cette initiative. Je suis pas bien, j'étais pas bien dans ma peau. Mais en présence des enfants, j'ai caché tout. La plus grande, elle m'a demandé, mais pourquoi papa ne te parle pas? J'ai dit, je ne sais pas. Et l'enfant, lui, il est là, il attend, lui, il n'a rien à voir avec tout ce qui se passe avec les parents. Je me dis qu'avec les enfants, on n'a pas de problème. Ils sont tellement francs que, quel que soit ce qui va se passer, on rigole toujours en fin de compte. L'atmosphère restait comme ça jusqu'à un moment donné, j'ai dit non, il faudrait que ça cesse. Et c'est ainsi que je me suis séparée d'eux.
Aujourd'hui, vous avez retrouvé une nouvelle famille ?
J'en cherche. J'espère que je vais tomber sur une bonne famille pour qu'on puisse s'entendre comme la première famille que j'ai eue.
Vous voulez réagir à ce témoignage, Caroline Ibos?
Oui, rapidement. À la fin, elle dit « J'espère que je tomberai sur une bonne famille ». Et là, ça montre vraiment la structure de ce travail. C'est-à-dire que les travailleuses sont complètement dépendantes de leur patron. Il y a une part d'arbitraire énorme. Et donc, c'est que la situation n'est pas bonne en elle-même. Ça ressemble à la tyrannie. Il peut y avoir des bons tyrans, il peut y en avoir des mauvais. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Il peut aussi avoir une façon d'encadrer.
Rien n'est garanti dans le droit, l'encadrement n'est pas là pour garantir des situations de travail. Ce qu'elle dit, c'est que sa santé mentale, morale, est mise en danger. En fait. Donc c'est un témoignage qui est super intéressant.
Et la question du lien familial aussi est intéressante, notamment quand on parle des nounous, puisque vous l'écrivez, Timothée de Roglodre, c'est une question à double tranchant. La nounou est vue comme une deuxième maman pour les enfants, mais cette relation masque la relation employeur-employé qui est de fait teintée d'inégalité.
Oui, c'est ça. En fait, la particularité aussi de ces métiers, c'est que le lien affectif peut subsister au-delà de la rupture du contrat. Donc, par exemple, Mariam, dont on parlait tout à l'heure, elle continue à être en contact avec tous les enfants qu'elle a gardés sur 35 ans.
Et vous êtes en contact avec Swad?
Moi, je suis toujours en contact avec Swad. Et effectivement, ça, c'est sur le lien affectif, le lien intime, c'est ce qui se ressent. Mais en revanche, quand on essaie de politiser la question et justement de dépasser ce rapport affectif, on voit qu'il y a vraiment deux univers complètement différents qui se croisent. Qui a vraiment, moi je parle de lutte des classes à domicile, pas au sens d'une confrontation, parce que pour l'instant il n'y a pas véritablement de confrontation dans ce secteur au sens de CGT vs MEDEF. Mais,
en tout cas, il y a deux mondes qui se croisent.
Voilà, c'est ça. Il y a vraiment une fracture très forte qui montre le lien de domination, encore une fois, au sens social et pas individuel.
Alors on va accueillir un voisin tout de suite, Daniel. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour à vous.
Vous êtes au
bonjour
Julis,
à toute l'équipe.
Aux régions parisiennes. Bonjour et on est ravis de vous entendre. On vous écoute, Daniel.
Voilà, en tout cas, bonjour d'abord à toute l'équipe, à vos invités, à toutes les voisines et tous les voisins. Alors, moi, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de cas, mais j'en ai relevé deux que j'ai vécu personnellement. Donc, les deux cas, c'est chez nous. Hein. Je suis natif de Kinshasa. Alors, dans les années, début des années 70, étant donné qu'il y avait beaucoup d'activités chez nous, notre papa avait jugé bon d'embaucher un jeune homme qui était beaucoup plus âgé que nous. Mais étant donné les valeurs que notre papa nous a inculquées, il était hors de question que nous considérions cet homme-là comme un domestique, quoi. Et à tel point que nous qui étions plus jeunes que lui, on l'appelait Ya Michel. Son prénom, c'est Michel. Et Yaya, chez nous, ça veut dire grand frère, quoi, avec tout ce qui s'ensuit, quoi, tous les respects. Mmh. Et notre relation était telle que, quand cet homme-là devait partir, quitter chez nous, moi, j'en étais presque malade, quoi.
Ouais, vous aviez un lien très proche avec lui.
On avait vraiment des relations presque fusionnelles, pour vous dire. Mmh. Et quand il est parti, il est parti lui aussi avec des très bons souvenirs. Lui venait de la province, il devait rentrer s'occuper des affaires dans son village.
Mmh. Et aujourd'hui, Daniel, alors, vous avez une jeune fille qui s'occupe de votre mère, hein, c'est ça, à
voilà.
Kinshasa.
Et aujourd'hui donc, pour en venir maintenant à Kinshasa, moi j'étais à Kinshasa du 30 mai au 10 juin. Alors notre maman est âgée maintenant de 85 ans, et notre jeune frère qui habite Londres nous avait dit que pour lui, maman était très très fatiguée. Il fallait lui trouver une jeune fille, comme on en trouve beaucoup à Kinshasa. Et cette jeune fille, donc, elle travaille chez nous. Quand je suis allé, cette petite a voulu me servir comme un peu les domestiques le font. Je lui ai dit, non, toi, tu es comme ma petite sœur, tu es comme, une autre fille, quoi. Hors de question de faire quoi que ce soit avec moi. Et surtout que À Kinshasa, en fait, dans beaucoup de pays africains, quand quelqu'un vient de l'Europe, on le considère comme étant supérieur à ceux qui habitent là-bas, quoi. Moi, je dis, tu es notre petite sœur, tu es notre fille, fais les choses normalement pour maman, mais hors de question de me prendre comme un super-homme, comme un patron, quoi.
Et vous dites qu'il est hors de question aussi qu'elle fasse autre chose que s'occuper de votre mère, c'est ça ?
S'occuper de notre maman, voilà. Et à tel point que ça a commencé à poser des petits soucis entre cette petite et ma nièce et mon petit-neveu qui ont presque le même âge. Juste un petit exemple. Un jour, comme ça, d'après ce que j'ai appris, moi j'étais ici, on m'a appelé pour me dire « Ah, il y a des petits soucis entre la petite et votre nièce et votre neveu. » Je dis « Mais pourquoi ?» Parce que la petite avait déjà fini de laver la vaisselle. Et les autres ont ramené de la vaisselle, mais sale, qui datait de la veille. J'ai dit, mais c'est pas normal. Alors, moi, j'ai demandé à parler avec le petit neveu. Je lui ai dit, mais vous savez, moi, quand j'étais gosse, à la maison, la même maison où vous êtes, je me permettais de laver deux assiettes, deux fois. Et vous pouvez demander à votre belle tante ici, c'est pas parce que je suis papa que je ne lave pas la vaisselle, je lave la vaisselle. Cette petite-là, il faut la considérer comme votre sœur. Il est là pour votre grand-mère, mais pas pour vous. Je leur ai dit ça, ils ont un petit peu boudé, mais après ils ont compris. Quand je suis parti là-bas, donc là dernièrement, récemment, on a essayé de parler ensemble, on s'est compris. Ça, je pense, c'est des valeurs qui viennent de loin.
Mais même s'il y a un lien familial, Daniel, malgré tout, ça reste votre employé, c'est quelqu'un que vous rémunérez.
Oui, mais il ne faut pas outrepasser son... Comment on appelle ça ? C'est pourquoi elle est embauchée là-bas. Vous voyez, parce que beaucoup chez nous considèrent que quand une fille ou un jeune homme travaille chez soi, on doit lui donner n'importe quoi. Moi, je leur ai dit, elle est là pour votre grand-mère, pas pour vous. Vous êtes jeune, s'il y a des choses à faire, il faut les faire aussi. Et les enfants, ils ont compris. Bon, par moments, ils boudent un peu, ils disent, mais vous l'avez embauchée, pourquoi ? Mais on dit, mais elle a été embauchée d'abord pour votre grand-mère, pas pour vous.
Merci, merci beaucoup Daniel de témoigner et puis aussi de faire passer ce message-là. Quelqu'un veut répondre autour du plateau ?
En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça ramène à l'idée que beaucoup d'employeurs, de particuliers employeurs, ne se pensent pas en tant qu'employeurs, mais se pensent plutôt dans une relation voilà, familiale. Et donc, encore une fois, la conséquence, c'est que ça va, les conditions de travail de la travailleuse vont dépendre un petit peu de la bonne volonté de l'employeur. Donc, c'est extrêmement précaire comme cadre.
Caroline Dibos.
Oui, on voit bien l'aspect structurel dans le témoignage de Daniel, de cette relation de domesticité, parce que le neveu et la nièce trouvent naturel que cet employé lave leur vaisselle. Ça ne vient pas de n'importe où, alors même qu'ils sont dans une famille où visiblement on leur a inculqué d'autres choses. Donc c'est-à-dire que structurellement, cette condition d'exploitation passive et invisibilisée, elle est là. Et il y a l'oncle qui essaie de rétablir autre chose, mais là on est bien dans l'arbitraire. Et si l'oncle n'essayait pas de rétablir autre chose, cette petite sœur, comme il l'appelle, entre guillemets, se retrouverait être la bonne à tout faire de toute la maison.
Alors nous sommes en ligne avec Daniel Maréchal. Bonjour Daniel Maréchal.
Bonjour.
Vous avez travaillé comme assistante maternelle. Aujourd'hui, vous êtes militante syndicale au sein du syndicat CFDT en charge du dialogue social et des négociations des conventions collectives de tous les métiers du particulier employeur. Et on va faire un petit point avec vous sur ces métiers à domicile, donc pratiqués essentiellement, on l'a vu, par des femmes et leur évolution. Alors vous intéressez beaucoup à la question qu'on a un petit peu abordée de la santé de ces femmes et de la santé au travail.
Oui, actuellement, c'est un sujet à l'ordre du jour hein, de la négociation de dialogue social. Je tiens quand même à dire que la CFDT s'occupe de ce secteur, hein, s'occupe de construire des droits depuis 1995. Hein. Ce qui, puisque aujourd'hui il existe deux conventions collectives hein, qui couvrent l'ensemble de ces salariés, qui amènent des droits et des obligations pour les particuliers employeurs. Alors sur le côté santé en travail et prévention, on a déjà établi, fait un accord de dialogue social pour permettre la mise en place de l'accès à la médecine du travail donc des salariés du secteur. Cet accord prévoyait déjà la possibilité de cet accès pour les assistants maternels, mais le ministre de la Cohésion sociale n'a pas souhaité les inclure. Alors, la CFDT n'a pas lâché hein, le morceau, comme on dit, et là, elle vient d'obtenir que cette discrimination soit effacée, et il va y avoir des ordonnances d'ici la fin de l'année, et les assistants maternels seront bien inscrits comme pouvant accéder à la médecine du travail. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi qu'on construise le mode d'emploi, parce que c'est un secteur qui est très très important, hein. Au total on a quand même 1 500 000 salariés, donc on est en construction hein, de l'accord mode d'emploi pour rendre effectif l'accès de la médecine du travail et surtout assurer donc à ces salariés du secteur le salaire sur les temps de visite et le remboursement des frais occasionnés par les déplacements. Donc on espère hein, que tout cela va pouvoir être en exercice à horizon mi ou fin 2020.
Alors il y a aussi hein, la question de la formation, de l'accès à la formation, la professionnalisation de ces métiers, quand ils peuvent être déclarés bien sûr, sur laquelle vous travaillez.
Oui, parce que alors j'ai écouté hein, toute votre émission et donc j'ai effectivement peu entendu de retour et bien sûr les droits qui sont déjà construits hein, par le biais des conventions collectives, sur effectivement la formation où il existe pareil hein, depuis plus de 10 ans aujourd'hui, on a construit hein, de façon à ce que ces salariés puissent s'engager dans un parcours professionnel et un parcours de développement des compétences. Et donc il y a une loi en septembre 2018 et là nous sommes en négociation sur l'adaptation parce que on a déjà des accords de formation mais il faut les adapter au texte et article de septembre 2018. Et donc, on est dans cette négociation et l'une des choses auxquelles on tient absolument et on veut absolument arriver, c'est faciliter l'accès de ces salariés à la formation sur leur temps de travail et donc avec un maintien de leur salaire notamment. Et on souhaite que pouvoir construire avec notre accompagnement ces salariés, pour les aider à construire leur parcours professionnel sur leur métier du secteur, mais aussi entre les métiers du secteur, puisqu'on voit bien qu'on a des gardes d'enfants, on a des assistantes de vie, on a les assistants maternels. Donc il y a des possibilités suivant l'évolution de leur vie entre les métiers du secteur d'emploi du particulier employeur.
En tout cas, il y a des droits qui existent et qui sont là. Merci. Désolée de vous couper. Merci beaucoup, Daniel Maréchal. On arrive à la fin de cette émission. Je me tourne vers vous, Timothée de Roglodre, pour le mot de la fin. Ce débat rejoint aussi la question du traitement des femmes migrantes en France, évidemment. Et pour vous, les rendre visibles, ces femmes-là, c'est une partie aussi de la solution ?
Oui, en fait, je pense que tout le monde social et politique doit se saisir de cette question et se rendre compte de l'ampleur du retour de la domesticité au XXIe siècle et de tout ce que ça impacte. Je voudrais signaler que depuis 2011, l'Organisation internationale du travail a signé une convention 189 qui est censée protéger les travailleuses domestiques et que la France ne l'a toujours pas ratifiée.
Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Timothée de Roglodre. Merci également à vous, Caroline Ibos, et merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Sophie Janin, Sigrid Azeroual, Cécile Lavello, Elsa Olaizola pour vous répondre. Et merci à vous, bien sûr, les voisins et les voisines. Merci à Maria et Nadi qui ont appelé. Malheureusement, on n'a pas pu les prendre dans l'émission. Demain, 7 milliards de voisins, on continue d'explorer notre monde du travail pour le meilleur et pour le pire. Quand passion rime avec précarité, pourquoi choisir un métier sous-payé et peu valorisé. On vous attend derrière et dans le poste. Qui sait ? À demain les voisins.